Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka ora nui et bienvenue dans cette 16e émission.
Édition 2023.
Rappelez-vous, la dernière fois, nous nous étions penchés sur le rôle des fêtes Koika et des festins Mao dans la société traditionnelle ancienne. Nous avions aussi commencé à examiner les sacrifices humains à travers le nombre des victimes nécessaires. Aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de témoignages nous expliquant les différents types de victimes et les divers rituels. Regardons d'abord ce que raconte Edward Roberts, le second étranger qui vécut sur place de 1798 à 1806,
à la page 33 de son journal marquisien, à propos
de la cérémonie à laquelle il assista peu de temps après son arrivée à Waitau, à Tahuata. Dès l'annonce du décès d'un Tahua, un grand prêtre, un groupe d'hommes chargés de ce genre d'incursion se met en route à la recherche de victimes à l'intention du prophète défunt. Ces hommes-là, on les nommait Moio-e, qui signifie « se tenir en embuscade ». De nos jours, ce mot sert aussi à traduire les mots « espion », « espionné », « espionnage ». Ces hommes donc se rendent dans les vallées ennemies et se tiennent en embuscade dans l'attente d'une infortunée personne. Ils se précipitent sur leur proie, l'emportent sur leurs épaules et avant que les ennemis soient alertés, s'enfuient hors de portée. Arrivés sur les crêtes découvertes qui dominent les vallées, ils lancent par trois fois leur cri de guerre et montrent à la vallée leur victime attachée à une perche, Owamo, et se mettent prestement en route. La victime est apportée au Tahua du Me'ai, puis offerte en sacrifice et pendue à un arbre à cet effet. Toute la vallée devient alors Tapu. 7 jours durant, on ne doit y allumer aucun feu et aucune femme n'est autorisée à sortir de sa case. Si une pirogue étrangère à la vallée accoste au cours des cérémonies funéraires d'un Tahua, on s'empare de son contenu matériel ainsi que de ses occupants qui sont transportés à Dodome au Me'ai et offerts en sacrifice aux divinités Etour.
Chers amis, comme déjà annoncé précédemment, au cours de l'année 2016, j'ai la grande fierté d'avoir conduit à son terme la traduction en français du journal d'Edward Roberts. Si la vie des anciens marquisiens vous intéresse et si vous voulez en apprendre un peu plus sur leur compte, ne manquez surtout pas de vous procurer ce journal,
publié en septembre 2018 aux éditions Hairepo de Tahiti.
Voyons maintenant les remarques faites par Greg Denning, à la page 63 de son livre « Réflexions ». À la mort d'un Haka'iki ou d'un Tahua, à la requête d'un autre Tahua, un de ces prophètes sauvages et échevelés qui habitent en des lieux isolés des vallées, les Enata partaient à la recherche de victimes. Ils appelaient cela « aller à la pêche »« Ikahano ». En temps normal, les victimes, Heaka, étaient presque toujours capturées chez les ennemis héréditaires et plus particulièrement parmi les Kikino de ces derniers, les pauvres, les serviteurs, les hommes et les femmes sans tatouage, sans tapou que le travail ou la marginalité plaçaient dangereusement hors de leur communauté. La plupart du temps, elles étaient tuées sur les lieux mêmes de leur capture. Parfois, on les conduisait sur la grève pour les tuer. Parfois, elles étaient libérées si elles avaient des parents dans le clan ennemi ou si quelqu'un les réclamait pour lui. Parfois, aussi, elles étaient relâchées après avoir été scalpées par le Tahua, nous en avons déjà parlé. Et nous avons vu ce que scalper signifiait vraiment, arracher le cuir chevelu. Continuons. Après les avoir exécutées et cuites au four, les Enata partageaient leur prise en offrandes qu'ils laissaient sur le Me'ai et en nourriture qu'ils consommaient. Seul un Enata pouvait être Heaka victime sacrificielle. Parce que les Enata avaient compris le rejet des sacrifices humains par les étrangers, il arrivait, à partir de 1840, que des tortues ou des raies soient substituées au Heaka. Examinons maintenant ce qu'en dit le docteur Louis Rollin. Le docteur Louis Rollin a été affecté aux Marquises de 1923 à 1930, d'abord en qualité de médecin, puis en qualité d'administrateur de l'archipel. Il a pris les mesures ayant conduit au redressement démographique qui a sauvé la population de l'extinction. Passionné par les coutumes ancestrales d'un peuple qu'il a sauvé de la mort, il en publiait une étude en 1974 sous le titre « Mœurs et coutumes des anciens Maoris des îles Marquises ». À la page 190 de son livre, le docteur Rollin nous explique que les victimes Heaka se comptaient au nombre de 4 catégories. En nous inspirant de cette classification, nous allons essayer de comprendre les différents rituels. La première catégorie de victimes concernait les personnes s'étant rendues coupables d'infractions notoires au tapu. Elles étaient victimes expiatoires, destinées à porter une excuse, à demander pardon aux divinités. À la suite d'une transe qui le mettait en contact avec la divinité concernée, le Taoua désignait le coupable.
S'il appartenait à la communauté proche, il arrivait que le Taoua demandât des victimes extérieures, mais ce n'était pas toujours le cas.
De toute façon, conscient de sa faute, le coupable vivait ensuite dans la crainte d'être capturé par les habitants d'une autre vallée en quête de victimes. Ces victimes étaient offertes au dieu sur le Me'ae pour lui demander son concours indulgent. La victime était conservée vivante pendant parfois une semaine, faisant l'objet de cérémonies diverses. Le jour de la cérémonie, on ligotait la victime sur une perche et on la portait sur un paï-paï appelé Tu'u. À ce propos, à la page 281 de son dictionnaire, Mgr d'Ordillon écrit qu'en plus de désigner une pierre creusée pour servir de réchaud, un Tu'u est un lieu sacré entouré de dalles de tuf volcanique rouge, Ke'etu, où les prêtres Tu'uka exécutent des cérémonies de victimes. Mgr d'Ordillon dit aussi que c'est le nom du 17e jour lunaire. Continuons. Le Tu'uka O'oko entonnait un chant spécifique accompagné de battements de mains et de manipulations diverses de la victime selon les couplets. On la soulevait, on la jetait au sol, on lui passait un hameçon rituel par la bouche, sortant sous le menton, tandis que le prêtre tirait et relâchait la corde qui lui était reliée. On lui arrachait les yeux, le prêtre les suçait, puis on étouffait la victime avec un bâton. Le corps était ensuite dépecé et jeté au Tainui. Le Tainui, qui signifie aussi le grand large, c'est la grande fosse identique à celle qui s'enfonce en terre au pied du grand banyan du Me'ae de Kamuihei à Hati'eu, et au fond de laquelle plongent les racines du géant. C'est une métaphore, un symbole du grand océan, d'où les hommes proviennent et où ils retournent. Dans les Écritures saintes, Dieu dit à l'homme qu'il a créé avec de la terre glaise, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais ignorant la parole de ce dieu dans les temps anciens, cette mise en fosse Tainui signifiait pour lui « Tu viens de la mer et tu retourneras à la mer ». Il arrivait aussi qu'on ne sacrifiât que la tête. On y faisait passer une corde que l'on attachait à la lance de celui qui avait tranché la tête. On déposait la tête sur le Me'ae, on exécutait une danse et le Taoua dépeçait la tête. Il la scalpait et en jetait le restant dans un feu sacré en même temps qu'on sacrifiait un porc. À l'heure des sacrifices, les femmes devaient rester dans les cases et tous les feux devaient être éteints. Cette première catégorie n'était donc pas consommée, mais offerte au dieu qu'elle rejoignait dans la fosse Tainui. Comme toutes les catégories de victimes qui vont suivre, elles étaient recouvertes de peintures faites à base de terre rouge qui leur conféraient l'état tapu, leur permettant d'entrer dans le monde des dieux après leur mort.
Hi, hi, hi.
La deuxième catégorie concerne les guerriers capturés au combat et sacrifiés au cours d'une grande fête publique sur le Tohua du clan. Ils jouaient le rôle de remerciement pour avoir remporté la victoire et être restés en vie. Ils démontraient aussi la force mana du chef qui, aidé de son Tawa et du chef des guerriers, le Toa Nui, avait remporté la victoire. Dans ses mémoires d'un vieux normand, c'est William Leblanc qui nous donne un témoignage que j'ai résumé ci-après. Au retour d'un combat, une tribu d'Akaapa rapporte 6 prisonniers dont le chef blessé de la tribu adverse. Les prisonniers sont attachés au pied des cocotiers longeant le Tohua. Le chef est soigné et nourri dans une maison à part. Quand il va mieux, le chef des vainqueurs et son Tawa décident que le temps du sacrifice est venu. Les prisonniers et leur chef sont attachés debout au cocotier, le visage contre le tronc. Les guerriers exécutent une danse qui s'interrompt au signal du Tawa. C'est à ce moment-là qu'intervient un serviteur du Tawa appelé Uu, car c'est avec un casse-tête Uu qu'il fracasse par derrière le crâne d'un prisonnier, tué sur le coup. La danse reprend puis s'interrompt à nouveau, et une nouvelle exécution est conduite par un autre serviteur Uu, et ainsi de suite, jusqu'au dernier prisonnier. Les corps sont ensuite découpés et seront cuits pendant la nuit dans des fours spéciaux pour être consommés le lendemain au cours d'un repas tapu. Des gardiens veilleront sur les fours toute la nuit. Nous parlerons du casse-tête Uu et des armes de guerre au cours d'une prochaine émission. Mais il est intéressant de noter ici que cette arme de prestige du guerrier Toa devait, en raison de son poids, être beaucoup plus souvent utilisée lors des exécutions que lors des combats. D'autant que ceux-ci, les combats, menés à distance au moyen de frondes et de lances, étaient peu propices au corps à corps, que les Enana n'affectionnaient pas. Malgré les critiques concernant le livre de William Leblanc, je trouve le récit complet des 5 jours de cérémonie extrêmement plausible et j'y consacrerai une émission complète lorsque nous serons arrivés à la période historique concernée, à partir de 1842.
Cependant, il est pertinent et curieux de faire remarquer que, dans « La religion ou le paganisme des Marquisiens », l'ouvrage de référence du père Siméon Delmas, celui-ci ne mentionne pas les Uu comme étant des serviteurs des prêtres Tawa. Il cite seulement les Moa et les Tapuoko qui avaient pour fonction de garder le lucus au Meae, de tuer les victimes humaines amenées vivantes, de les suspendre, de les dépecer lorsqu'elles entraient en putréfaction et de les jeter au charnier, un trou ménagé sur le Meae qu'on appelait Tainu et dont nous avons déjà parlé. Il préparait aussi la nourriture du Tawa et lui rendait tous les autres services dus à sa dignité.
La troisième catégorie concerne les victimes sacrifiées à l'occasion d'un grand événement privé tel que le premier tatouage, la super-incision du prépuce, les premières règles ou le percement d'une oreille,
le mariage, la naissance d'un enfant et enfin la mort de la personne concernée.
Le rôle de messager des victimes était alors mis en valeur, invitant ainsi les divinités à participer aux festivités des hommes. On peut citer à nouveau ici la cérémonie nommée Hamihune, au cours de laquelle le chef remettait à son fils premier-né son pagne de tapa de banyan, le Hamihiapo, et pour laquelle on étranglait 4 victimes. La 4e catégorie est composée des victimes capturées par vengeance et qui étaient les plus maltraitées. Victimes expiatoires, elles concentraient le mépris de tous qui s'acharnaient sur elles avant de les sacrifier. On se souvient des quelques piquinas capturées par les Hema de Tahuata et qu'on avait attachées sur la plage, attachées des hameçons et qu'on maltraitait, auxquelles on donnait des coups de pied. Cette fois-ci, c'est encore Greg Denning que nous écoutons. Dès leur capture, on leur brisait les jambes pour qu'elles ne s'échappent pas. On les attachait à une perche et elles étaient apportées au Tohua où elles étaient exposées pendant plusieurs jours. Parfois, elles étaient empalées
sur une branche épineuse du flamboyant local qui se nomme érythrine en français et ketae ou ketae, kenae en marquisien,
que l'on retirait avec les intestins le jour du sacrifice. Les mères, femmes, filles de la victime pouvaient venir pleurer le mort. Elles devenaient tapou en se couvrant le corps de noir de charbon de bois, y traçant des croix, rappelant le kopeka, ce martinet salangane des marquises, dont elles chantaient l'incantation kopeka kaahuahi, la salangane noire de fumée. Elle pouvait ensuite quitter le secteur ennemi à condition de rester nue. Parfois, on tranchait les mains de la victime, on la suspendait à un arbre par un hameçon, passant par la bouche et le menton, on lui arrachait la langue, on lui coupait les lèvres, on allumait sur lui un petit feu qui le grillait lentement, on passait des hameçons dans ses oreilles, dans son nez, dans ses lèvres, et on lui arrachait les yeux, on le scalpait. On l'enterrait jusqu'au cou dans le sable, des hameçons accrochés à son visage, étendus par des piquets. On allumait des petits feux à distance qui le cuisaient lentement. Il existait une 5e catégorie illustrée par la cérémonie de Vaititi. La victime offerte en sacrifice représentait le désir ardent des exécutants d'obtenir les bonnes grâces des divinités concernées. C'était ce qu'on appelle une victime propitiatoire. En étudiant ligne par ligne et mot après mot le dictionnaire d'Ordillon, à la page 289, j'ai rencontré un mot dont la définition m'a fait tressaillir. Il s'agissait du mot « vaititi », dont la sonorité enjouée ne laisse en rien présager de la définition que voici. « Vaititi, heaka vaititi, victime humaine que l'on brûlait vive avec cérémonie sur le rivage de la mer afin d'obtenir l'abondance des fruits à pain » en période de disette.
L'édition de 1931 de ce même dictionnaire précise qu'il s'agissait uniquement de femmes que l'on brûlait ainsi.
Je ne fais pas de commentaire, c'est un sacrifice extrêmement violent. Jamais au cours de mes lectures je n'avais vu mentionner un tel sacrifice dont la violence n'a d'égal que la rareté. Seule une terrible famine pouvait justifier une cérémonie aussi extrême. Mais le dictionnaire ne dit pas si la personne sacrifiée, déjà cuite, était ensuite consommée. Chers amis, c'est avec cette vision de flamme que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous essaierons de synthétiser tout ce que nous avons aperçu du sacré et du profane de l'ancien temps. Nous mettrons un terme à cette série d'émissions très spécialisées en examinant l'aspect musical des sacrifices grâce à des chants qui nous sont parvenus. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Rataro pour sa chanson « Tapatapa Huia » qui vante les qualités de la langue marquisienne, celle qui permet les déclamations, les incantations des dieux et la narration des légendes ancestrales. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf
kopo, K-O-P-O
ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o oaiho.
Te ati e nata.